Slate Podcast.
Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression d'être observé, chez vous, dans le métro ou dans la rue. Comme le sentiment qu'on vous épie un peu. Regardez les gens, les autres. Sont-ils tout à fait réels? Vous veulent-ils du bien? Et si nous étions tous des comédiens d'une sitcom qui ne dirait pas son nom? Dans The Truman Show, un film de 1998, Jim Carrey mène une vie paisible dans la ville de Sea Haven. Mais il réalise qu'il est le héros de la plus grande émission de télé-réalité de tous les temps depuis le jour de sa naissance. Ses proches, sa compagne, son père, sa mère, ses amis sont en fait des acteurs. On peut, parfois, se demander si sa propre vie n'est pas un petit Truman Show. Un doute généralement rapidement balayé par la raison. Mais parfois, l'inquiétude prend des proportions démesurées et vire à la paranoïa. Un jour, Sandra a cru que tout ce qui se jouait autour d'elle n'était pas le fait du hasard, qu'elle n'était qu'une actrice impuissante de sa vie, et qu'on lui voulait du mal. Vous écoutez le 99e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr.
J'ai 17 ans, c'est l'année de mon bac, et là, je rencontre mon premier amour. C'est Léo, et je le rencontre en soirée. C'était une fête avec des amis d'enfance. Il était plutôt mignon, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il rigolait beaucoup. Il prenait beaucoup de place pendant cette fête, et donc j'ai accroché rapidement avec sa personnalité. Il est en internat, donc je le vois que le week-end, mais on s'écrit très souvent. J'ai hâte à chaque fois de le retrouver le week-end. On rit énormément, il est très agréable. Il m'emmène souvent chez lui, dans son appartement, où je rencontre ses parents. Sa mère est psychiatre, son père travaille dans la biologie. Au fur et à mesure que les mois avancent, je le trouve un peu bizarre. Une fois, je suis rentrée chez lui, sa table basse était cassée. Et il m'expliquait qu'il était tombé dessus en rigolant. Et plus tard, quelques jours plus tard, il me dit « mais en fait, c'est moi qui l'ai cassé ». Et là, je me dis « oh, il s'énerve beaucoup, il doit être sanguin ». Et un jour, on est tous les deux chez lui, on regarde la télé et puis il me dit « tu sais, ma mère est psychiatre, on va regarder, j'ai trouvé des vidéos de ses patients ». Je savais pas trop à l'époque ce que c'était psychiatre, je savais que c'était un médecin qui s'occupait des personnes qui avaient des soucis, mais j'avais pas vraiment la notion de ce métier. Donc bon, je lui dis « ok, il n'y a pas de souci, on regarde ». On s'installe et puis là, je vois une patiente qui est installée dans une salle assez neutre. Et en fait, je me disais « ah oui, elle est folle, mais elle raconte n'importe quoi ». Elle passait du coq à l'âne, et puis parfois elle pouvait sourire, parfois pleurer. Donc j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Je me suis dit, c'est le métier de sa mère, il en est fier peut-être. Il me le montrait comme si c'était un jeu. Il est très possessif avec moi, et je remarque qu'il est très en demande de me voir. Et un jour, on était au McDo. Je lui dis, il faut que j'achète un cadeau pour ma sœur. Il y a un DVD, là, ça va fermer. Il faut vraiment que j'y aille. Et lui, il me dit, je peux venir avec toi? Je lui dis, non, parce qu'après, directement, je vais voir ma mère. Et là, il commence à serrer du poing. Et on est au McDo. Il me dit, je veux rester avec toi. Je dis, non, on se verra tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Et là, en fait, il se griffe le visage, il devient rouge, et puis je vois que ça fait rapidement des marques, puis ça saigne un petit peu. Là, je me lève, je vais dans le métro, il me suit un petit peu, je commence à lever la voix en disant « là, stop, tu arrêtes, arrête !» Et là, il tape sa tête contre les affiches publicitaires du métro. Donc je cours, je prends le métro, et là, je me dis « il est bizarre ». 2 semaines avant le bac, ma meilleure amie m'invite dans sa maison de campagne pour qu'on puisse réviser. je prends un peu de recul justement pendant ces deux semaines et je me dis, mais en fait, je pense que je l'aime plus, il me dégoûte, je veux arrêter. Je décide de l'appeler parce que j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur de sa réaction. Donc je l'appelle et je tremble. Et là, je vais lui dire, écoute, je veux pas continuer, c'est terminé. À ma grande surprise, il va être très calme. Il va me dire, ok, je comprends, bonne chance pour le bac. Il raccroche, hyper soulagé. Là, je me dis, ça y est, j'ai réussi à le faire. Donc, après ces deux semaines, je rentre chez ma grand-mère. Je continue à réviser. C'est quelques jours avant le bac et je reçois des appels anonymes. Et ce sont des garçons qui me disent je sais que t'as un grain de beauté sur la cuisse. Assez gros, c'est dégueulasse. Et ils raccrochent. Et là, je me dis, ça, c'est Léo. C'est Léo qui leur a dit, il a raconté. Et en fait, à chaque fois, je recevais plusieurs appels. Au départ, je répondais, puis après, je ne répondais plus, mais ils pouvaient me raconter des détails sur... c'était vraiment du harcèlement, en fait. Ils me disaient, je sais que tu habites chez ta grand-mère, à telle rue... T'es une grosse connasse, t'es une salope. Et il raccrochait. Et là, je me suis dit, c'est ses amis d'internat, j'en suis sûre. À ce moment-là, je suis quand même inquiète, mais je me dis, bon, je suis plus avec lui, je passe mon bac, et puis après, ça va passer avec le temps, on va passer aux études supérieures, je vais rentrer à la fac. J'essaye de pas y penser, mais ces appels m'inquiètent quand même. J'ai eu mon bac, et j'ai été très contente. Mais je me sentais très, très stressée pendant ces épreuves quand même. Après le bac, avec mes amis d'enfance et mes amis de lycée, on décide de fêter ça chez un ami. Et à cette fête, eh ben, il y a Léo. Et je me dis, mais il n'a pas eu son bac, qu'est-ce qu'il fait là ? Je suis très, très stressée. Pendant cette soirée, je fais comme s'il n'était pas là. J'essaye... le plus possible d'être avec mes amis, de danser et d'être très loin de lui. Et en fait, à chaque fois que je change de pièce, il me crache dessus. Je me rappelle que j'avais une robe, c'était l'été, et il me crache dessus. À un moment, il me crache dessus en me disant « salope ». Là, même une de mes super amies le voit, elle me dit « viens, on va dans la salle de bain ». Elle prend, je pense, un mouchoir pour m'essuyer, pour me parler en me disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et là, il arrive dans la salle de bain. Elle est petite, sa salle de bain, et en fait, il s'approche très vite de moi et il me donne un coup de boule. Et là, mon amie s'interpose, elle le prend par le col, elle le pousse au fond du salon. Je pleure. Et donc, cette amie, elle me dit « on part ». Donc, je lui dis « Ok, j'éteins mon portable et je cours chez ma grand-mère. » J'arrive chez ma grand-mère, je m'allonge, j'essaye de toucher un peu mon crâne, je vois que c'est un peu sensible. Moi, je pense que je vais avoir une bosse. Mais en fait, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Je tremble un petit peu, j'allume mon portable, j'arrive pas trop à dormir, je rallume mon portable. Et là, je dois avoir 5-6 messages vocaux. C'est Léo. Il me dit « Tu vois, tu entends ce que tu fais là ?» Et puis je l'entends frapper sa tête contre la table. Il me dit « Là, je suis en train de prendre des médicaments. Parce que tu vois, tout ce que tu me fais là, je veux mourir. » Là, je me dis, et là, il est en train de faire une tentative de suicide. Je me dis « Je vais appeler ses amis que je connais et qui règlent le problème, eux. » Donc j'appelle... un gars que je connais très peu, et je lui dis, bah là, Léo, j'ai reçu ses messages, il faut le rejoindre, il faut le contacter. Après le coup de fil, je m'endors, la nuit passe, je me lève et je reçois des SMS de ses potes. Ils me disent qu'il est interné en hôpital psychiatrique. Je suis un peu étonnée, mais pas trop en même temps. Je suis suivie depuis quelques années par une psychologue, pour d'autres raisons, et je lui en parle. Elle me rassure, elle me dit que j'ai fait ce qu'il fallait en prévenant ses amis, en le quittant aussi, parce qu'il était néfaste, et j'ai plus de nouvelles de lui. Après ça, Je pars en vacances à la campagne avec ma mère. Ça me fait du bien. Je fais pas grand chose. Et puis, un jour, on décide d'aller faire les courses. Donc, je suis dans sa voiture. Mon cœur bat très vite. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Et puis, bah, de plus en plus vite, j'ai l'impression. J'ai du mal à respirer. Je demande à ma mère d'ouvrir la fenêtre. Je respire. Et je me dis, là, j'ai une maladie du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Et puis, j'arrivais pas trop à réfléchir. Vraiment l'impression de tomber dans les pommes. J'avais vraiment l'impression que j'allais tomber. Et puis là, ma mère m'amène chez le médecin. Il m'ausculte, il me dit « Vous étiez stressée en ce moment ?» Je lui dis « Bah non, ça va. Vous avez fumé ?» Je lui dis « Non, non. » Et puis il me dit « Bon, je pense que vous avez fait une petite crise d'angoisse, donc je vous prescris un anxiolytique. » Je le prends juste une ou deux fois, et puis après ça passe. C'est la fin de l'été, je rentre à la fac et j'ai pris un appartement seul. Une semaine après, on fait une soirée, je rencontre Quentin. Je le vois tout de suite parce qu'il est très grand. Il a un bon style, il porte des slims, des cheveux un peu longs, ça me plaît. Ça va être mon deuxième petit ami. Quentin, c'est quelqu'un qui est... À l'époque, il était hypersensible. Il pouvait pleurer facilement sur le sort de ses amis ou des choses de la vie. J'aimais bien. Et puis, il était musicien, donc il avait un groupe de rock. Je trouvais ça super cool. Il m'apprenait un petit peu la guitare, la basse. On chantait ensemble. C'est quelqu'un de très protecteur avec moi. Il va faire attention souvent à moi en soirée, il va me regarder, mais ça va être toujours mignon. Et puis, il va être un petit peu jaloux, toujours un peu jaloux. Et justement, ça va pas plus loin, donc ça me va. Et puis, je deviens très rapidement amoureuse, lui aussi. Et en fait, on n'a pas envie de se quitter. Il habite chez ses parents, donc je suis tout le temps chez lui. Je passe pratiquement pas de temps chez moi. Et je rencontre sa famille, notamment sa mère. Et sa mère, elle est, c'est un peu la mère que j'ai jamais eue. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble, et puis son père parle à Quentin. Et quand Quentin vient me voir en me disant, ils veulent m'acheter un appartement, mais j'ai une idée, je veux trop que tu viennes habiter avec moi. Moi, je me pose même pas la question, en fait. Je me dis, de toute façon, mon appart à moi, bah, en fait, j'y vais jamais et j'ai trop envie de vivre avec lui. Quelques jours passent et on regarde la télé un soir. On est tout seul, il n'y a pas ses parents. On regarde un film et là, je sens, sans raison, je sens encore mon cœur battre de plus en plus vite. Je dis à Quentin... Je vais pas bien. Je lui dis, je crois que je fais une crise d'angoisse. Et là, je me dis, oh non, ça recommence en fait. Donc, j'ai pas du tout envie de ça. Et puis, au bout de quelques heures, je commence à gérer cette angoisse et puis je m'endors. Et là, je me dis, c'est dur. C'est le début d'une période où je vais alterner des crises d'angoisse et surtout des insomnies, ça je connaissais pas. Je pouvais dormir 3-4 heures et je le ressentais tout de suite. Et en fait, me réveillant, c'était vraiment un sentiment où je me disais déjà où j'habite, je suis où ? Ah, je suis chez les parents de Quentin. Ah, je vais habiter chez lui. Je devenais complètement stressée. J'attendais beaucoup des autres parce que du coup, j'étais perdue, en fait. De pas dormir, ça a eu un effet direct sur toutes mes semaines. J'avais peur de pas aimer Quentin. En fait, je me posais la question... Ça se trouve, tu l'aimes pas. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Et je me posais tout le temps cette question. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Et je me disais, en plus, je vais vivre avec lui. Et j'avais pas envie de faire une erreur et j'avais peur de la vie en couple, je pense. La mère de Quentin me voit mal depuis quelques jours. Ça l'alerte. Elle me dit, ma sœur a déjà eu ça, des crises d'angoisse, elle n'a pas été bien, mais elle connaît un psychiatre qui pourrait t'aider. Donc je vais voir ce psychiatre qui a un grand cabinet, très chic, très bourgeois. Le psychiatre me dit, vous faites une dépression, vous êtes pas bien. Le médecin me prescrit un lourd traitement avec deux anxiolytiques ou trois, des régulateurs d'humeur. Je commence à les prendre et puis je me sens mais épuisée. Là, je dors enfin, ça me fait du bien, mais je me sens vide en fait. Je suis bien physiquement, mais je ressens pas grand-chose. J'ai repris à cette époque un BTS assistante de gestion. Je travaille dans un magasin de bijoux et je veux tenir le rythme, mais en fait, il y a des jours où je m'endors devant l'ordinateur. Finalement, j'emménage avec Quentin, je suis bien, on va dire, mais sans émotion et j'essaye d'aller au travail tous les matins, mais je suis épuisée et j'ai envie de rien et je pense que ça pèse beaucoup Quentin. Et je pense que ça a été difficile parce que il a géré un peu cette situation. Il connaissait pas du tout ce que c'était une dépression, ce que c'était une crise d'angoisse. Mais il a été présent. Et puis, au fil du temps, lui, il avait intégré une école de pub. Et puis, il sortait de temps en temps. Moi, j'avais envie de le suivre. J'avais l'impression qu'il avait honte de moi, de mon état un petit peu sédaté. Et en fait, il me disait, non, toi, tu dois te reposer. Il est moins sensible qu'avant. Je trouve qu'il est, il a pris confiance en lui. Et je pense qu'on a évolué différemment, en fait. Parce que moi, justement, en grandissant, je perds confiance en moi. Je fais rien. J'essaye un maximum de dormir. Je pense qu'à dormir, à regarder des bêtises à la télé. Je pense que Quentin se lasse un petit peu de cette situation. À des moments, il va faire la fête, même dans notre appartement, dans le salon. Je vais venir dire bonjour et puis essayer de me servir un verre. Et puis là, Quentin va me dire « Ah ben non, non, toi tu vas te coucher là. Demain, tu travailles à ton magasin. » Et il y a cette tension qui arrive petit à petit. Il sort énormément. Moi, je reste beaucoup à l'appartement. Donc, on évolue complètement différemment. Je pense que pendant ces 3 ans de relation, on ne s'est pas vraiment quitté longtemps. Et je décide, après avoir passé mon BTS, que je n'ai pas eu d'ailleurs, de partir une semaine avec mes copines d'enfance. C'est cool. Je m'amuse beaucoup, beaucoup. Et j'ai peu de nouvelles de Quentin à ce moment-là. Mais je me dis, bon, on va se retrouver. Je suis contente qu'on ait réussi justement à se quitter 7 jours et se retrouver. Donc, je passe cette semaine et je rentre chez nous. Je rentre de Londres. Je m'allonge un peu dans notre lit. Je me repose. Je suis épuisée de cette semaine. Je me lève et je regarde une émission bête de télé-réalité. Là, Quentin vient me voir et me dit « Tu as cherché du travail ?» Je lui dis « Ben non, pas tout de suite. Là, j'ai besoin de relâcher un peu la pression de ces 2 ans de BTS. Puis je suis même pas sûre que je veux faire ça. » Là, il me dit « Mais en fait, t'es pas sérieuse. T'as pas d'ambition, en fait, au niveau du travail. » Il commence à me dire que je fous rien, en fait. Ni à la maison, ce qui est vrai. J'ai pas d'envie. Il me le reproche et il me dit là, moi je veux pas de ça en fait dans ma relation et là je te quitte en fait. Tu vas chez ta mère, tu vis plus chez moi. Et là je lui ai répondu, mais je t'aime, tu m'aimes toi aussi, j'en suis sûre. Il me dit, oui je t'aime mais je veux plus de cette vie en fait avec toi. Donc tu prends tes affaires et tu vas chez ta mère. À ce moment-là, j'ai 21 ans et je retourne vivre chez ma mère. C'est horrible pour moi, je m'entends pas trop avec elle. Donc je fais tout pour faire en sorte de pas être trop chez elle et je sors énormément. Toutes ces années avant où j'ai pas pu sortir, où j'ai fait que dormir, où on m'empêchait de faire des soirées. Là, j'avais envie que de sortir, donc je faisais la fête, je rigolais avec mes amis et je reprenais un peu goût à la vie. Et à ce moment-là, j'arrête mon traitement, moi-même. Parce que je me dis, je me sens bien, j'ai pas besoin de ça. Et il y a une soirée où je suis à un concert. Il y a un garçon que je trouve très beau, il mixe. Il me plaît bien et ouais, c'est la première fois après Quentin que je retrouve un peu ces sensations-là. Martin, il me plaît bien, il est mignon et bah on s'embrasse cette soirée et je dors chez lui. Le lendemain, il me dit voilà, il y a ce groupe-là d'amis qui mangent à côté de mon ancien lycée. Donc je lui dis pourquoi pas, en plus je les aime bien, ils sont drôles tous. Donc je vais manger avec eux, tout se passe bien, je me dis moi j'espère un peu plus avec lui, même déjà là, je me dis je le trouve sympa. Et donc je rentre et là j'ai un appel de mon meilleur ami Florent. Il me dit du coup paraît que t'as mangé avec Martin. Je lui dis ouais, comment tu sais ça? Il me dit juste fais gaffe quand même, je pense qu'il se sert de toi. Comment ça, il se sert de moi? Je le connais à peine. Il me dit, en fait, au lycée, il y a une fille dont il est éperdument amoureux et il veut la rendre jalouse. Donc, je pense qu'il se sert de toi. Tu prends un peu tes distances. Et donc, je lui dis, on se revoit, on se rappelle. Hein. Donc, je raccroche et je me dis, j'ai pas envie de ça, donc... Je vais voir avec lui comment ça se passe par la suite. Au fond de moi, ça m'énerve énormément et ça m'inquiète aussi. J'ai ce sentiment-là où ça m'inquiète. Quelques jours passent et je reçois un autre appel de Florent. Il me dit « Je suis à un concert, tu peux venir. En plus, je suis tout seul. Allez, viens, tu m'as dit que tu viendrais. » Et là... Je suis persuadée qu'il est avec ce fameux Martin. Et je lui dis, t'es avec qui là? Je suis persuadée qu'il me ment, c'est sûr et certain. Il n'est pas tout seul, il peut pas être tout seul à un concert, mon pote, c'est impossible. Donc je lui dis, arrête tout de suite, moi je joue pas ce jeu-là. Martin, s'il est fou, moi j'en veux pas. Il est dangereux, mais moi je veux pas de ça. Donc je le raccroche et... Je suis très énervée et je me dis, là, il y a quelque chose qui se trame derrière moi. Il y a un truc, là, je ne l'ai pas saisi, mais je veux pas de ça. Et je veux faire en sorte que ce Martin me fasse pas de mal. Peu après, je sors de chez mon père et j'ai ce sentiment qu'on me regarde, qu'on me suit. Je suis dans le métro, je prends l'escalator pour sortir. Il y a un homme devant moi. Qui est de dos, qui croise les bras. Et en fait, son doigt montre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il me dit quelque chose, en fait, que c'est adressé à moi. Son doigt se dirige vers la droite et je me dis, je dois aller vers la droite. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut me protéger pour que je sois pas attaquée si je vais dans une autre direction? Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a des signes. Là, c'est des signes et soit il y a des personnes qui me veulent du mal ou des personnes qui veulent me protéger. J'ai l'impression que derrière moi, il y a quelqu'un qui me suit. Donc je suis à l'affût dans la rue, je regarde de partout et je me dis, Martin, il est hyper dangereux, il a dû mettre ses potes dans le cou, ils veulent me faire du mal. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre de ce sentiment. Et puis... Je rentre à ce moment-là chez ma mère et j'allume la radio et c'est le commencement en fait de... Je ressens qu'il y a des signes de partout et en fait ça va m'être destiné, c'est-à-dire que cette musique, elle va parler, elle va dire un prénom et ce prénom, je le connais parce que c'est le grand-père de ma cousine. Et je me dis, il y a des signes partout. Là, je suis en danger. Il faut que j'écoute tous ces signes pour m'en sortir. À ce moment-là, j'ai peur de mourir, qu'on me tue. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un me veut du mal, donc peut-être ce Martin, mais j'en suis pas si sûre. Mais je suis vraiment effrayée. Et donc, ces signes commence à être un peu de partout. Je vais dans la salle de bain, je me lave, et puis là, je regarde un peu le coin de la salle de bain, les recoins de la, du mur. Je me dis, ça se trouve, il y a une caméra qui est cachée, qui est en train de me filmer, pour qu'après, on se moque de mon corps. Donc, je me cache un petit peu avec la serviette. Je me dis, mais je peux pas me laver. Puis après, je me dis, mais non, allez, je m'en fous, je me lave quand même. Je me souviens qu'à un moment, je veux fumer une cigarette. J'ouvre la fenêtre, et puis il y a une école en bas. Et il y a tous les lycéens qui sont en bas. J'ai le sentiment qu'ils me regardent. Je me dis, ce sont des amis de Martin. Ça y est, encore, il a ramené... il y a des espions parmi eux, ils me surveillent. Je ferme la fenêtre, je préfère fumer à l'intérieur. Je veux me protéger, je veux pas mourir. Là, ma mère me trouve vraiment bizarre. Parce que... Je suis dans un peu dans l'appartement, je parle toute seule à des moments, et elle me dit ça va, tout va bien. Je lui dis oui ça va, mais parle pas trop parce qu'on nous écoute. Et donc là elle me dit mais tu dis n'importe quoi, arrête, tu me fais peur, arrête. Et là elle appelle mon grand frère qui vient à la maison. Il arrive. On s'installe et c'est le moment de manger. Et puis à la télé, il y a l'émission de Nagui. Puis je regarde attentivement cette émission. Et en fait, il y a pas mal de questions auxquelles j'arrive à répondre. Et en fait, je me dis, Nagui, il entend mes réponses. Il entend mes réponses et je vais peut-être avoir un cadeau. Donc, je suis à côté de mon frère et puis je rigole, je dis « Mais regarde Nagui, il dit la réponse que j'ai dit, je vais gagner !» Mon frère, il rigole un peu parce qu'il pense que je joue la comédie. Et je lui dis « Non, mais on va gagner !» Il rigole, mais en même temps, il dit « Mais que ça va pas trop là, repose-toi un petit peu !» Et puis ça repart de plus belle à chaque fois... je dis bah Nagui, je suis sûre qu'il m'entend, Alors s'il m'entend, c'est que tout le monde m'entend, donc je vais jeter la télé par la fenêtre. On était au 5e étage et du coup mon frère, là il me regarde dans les yeux, il me dit là ça va pas et écoute-moi là tu dis n'importe quoi. Il y a un petit laps de temps où je le crois, où je me dis oui c'est vrai là je suis un peu bizarre. Je l'écoute et 5 minutes après, je retourne dans ce même schéma. Mes parents et mon frère sont très inquiets. Et ma maman me dit, on a pris rendez-vous chez le médecin généraliste que je connais bien, donc on va y aller tous ensemble. Je me dis, mais pourquoi elle veut m'amener chez le médecin? Est-ce que c'est encore pour me protéger? Est-ce que c'est un piège? Donc bon, je fais confiance en ma maman et je vais chez ce médecin. Ma mère prend un temps avant que je le voie avec ce médecin pour lui parler. Pendant ce temps, je suis en salle d'attente avec mon père et mon grand frère et je fais le clown. Je leur dis ils veulent que je joue la comédie, il me dit mais de qui tu parles? Je lui dis mais ces gens là qui me veulent du mal, ils veulent que je joue la comédie, donc je vais être drôle. Donc je commence à danser, je commence à dire que je vais être une star, et je les fais rire, mais en même temps c'est toujours ça, je suis drôle mais inquiétante. Puis je vais voir ce médecin généraliste. Et il me pose des questions et puis il écrit sur son ordinateur. Et j'arrive pas trop à comprendre ces questions et je lui dis tout de suite « En fait, là, vous écrivez à qui sur votre ordinateur? À qui est-ce destiné ce que je dis ?» Et donc le médecin, il me dit « Bah en fait, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez ?» Je lui dis « Non, je sais que je suis sur écoute. » Je ne vous dirai rien. Je suis en danger de mort et je veux protéger ma famille avant tout. Parce que je me dis, bon, si ce Martin, il me veut du mal ou une autre personne, tant pis, je gérerai, mais je veux pas que ma famille soit dans le coup parce qu'ils sont avec moi. À ce moment-là, le médecin écrit une lettre pour que j'aille aux urgences psychiatriques. On rentre chez ma mère, tous ensemble. Je me mets dans un coin sous la table et je suis un peu prostrée et j'ai peur. Mon frère vient me parler. Il me dit, tu sais, on fait ça pour t'aider, pour ton bien. Hein. On veut pas te lâcher. Et à un moment, je l'écoute. J'ai de l'émotion pour la première fois. Je suis plus trop drôle. Je l'écoute. Et 5 minutes après, je repars dans mes délires. Et là, je me dis, je sais pourquoi ils m'emmènent aux urgences psychiatriques. En fait, ils veulent m'amener pour faire plaisir au médecin qui, en fait, n'est pas un médecin, mais qui fait partie du complot, pour pas qu'on ait de soucis, et donc pour me protéger. J'arrive à l'hôpital avec mes parents, mon frère. Ils nous accueillent et il y a un infirmier qui demande à nous voir tous ensemble. Et je me méfie un peu de cet infirmier, il est rigolo, mais en même temps, je me dis, en fait, il veut me faire passer un test. Mais un test pourquoi? Et puis je me dis, peut-être que c'est de la télé-réalité et que je vais devenir une star. Parce que toutes ces caméras qui sont installées de partout, chez moi, dehors, c'est peut-être parce que j'ai un potentiel artistique. Je me dis, il faut que je lui fasse croire peut-être un peu que je suis malade aussi à cet infirmier. On sait jamais, il peut faire partie du complot. Donc, je dis un petit peu n'importe quoi. J'essaye de dire ce qu'il veut entendre en disant « oui, je vais bien » ou à des moments « oui, je me sens pas bien, déprimée ». Et puis là, je regarde mon père et il a les yeux rouges. Et il est en même temps très calme. Mais j'ai l'impression qu'il bouillonne en lui et je me dis, il a peur, donc ok, je vais rester peut-être cette nuit dans cet hôpital. Et donc je dis à l'infirmier que j'ai besoin d'être soignée et je dis au revoir à mes parents, sans plus, parce que je me dis que le lendemain, je vais les retrouver et ils partent. Là, il y a une jeune médecin qui vient m'ausculter, elle me montre la chambre. Donc, il y en a plusieurs, et puis c'est une petite chambre simple. Je me dis, moi, je vais être bien, là, cette nuit. Je tourne un peu en rond, quand même. Je me dis, bah, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que je dois faire si je suis filmée? Peut-être que je dois jouer la comédie, ou faire des chansons, chanter, jouer de la musique. Donc, je vais dans la salle d'attente. Et là, les portes s'ouvrent. Il y a un policier, des pompiers avec une personne, un SDF, je pense. Et là, en voyant les policiers, je me dis, mes parents, il y a eu un souci, ils sont venus annoncer quelque chose, ils ne veulent pas me le dire. Ils sont venus annoncer que mes parents sont morts ou qu'il y a eu un accident de voiture, peut-être, quand ils sont repartis. Ça a marché, en fait, tout ce qui s'est tramé derrière mon dos. Et ben voilà, ils ont tué mes parents, donc je pousse un peu les policiers en me disant je veux aller les voir, je veux voir mes parents, donc j'essaye de sortir de cet accueil d'urgence, et ils me retiennent. Là, les infirmiers prennent le relais, donc ils me contiennent, ils m'amènent dans cette chambre, et là ils m'attachent les mains, les pieds avec des sangles. Je les regarde, je dis, mais je jouais la comédie, je suis pas folle. Hein. Et puis là, il y a cette médecin qui arrive, qui me dispute un peu en me disant, il faut vous calmer là. Je lui dis, mais vous aussi, vous êtes dans le coup, mais s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis trop en danger. Et elle sort une seringue. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Non, je suis pas folle, je veux pas être tuée non plus. Donc elle me pique. Et là, je me sens toute molle physiquement et je m'endors dans les quelques secondes après l'injection. J'ai l'impression d'avoir deux pensées, c'est-à-dire que d'une part, il y a ce Martin qui me veut du mal, et puis se rajoute à ça la question des caméras, parce que je me dis, est-ce que en fait c'est pour me faire du mal ou c'est parce qu'il m'aime et que je suis dans une émission de télé-réalité, quelque chose de nouveau peut-être, donc c'est un espèce de test. Donc je suis pas sûre, mais il y a des moments où je vais penser que à ce complot et d'autres moments que à cette télé-réalité. Et parfois, c'est les deux en même temps et je crois à trop de choses. Le lendemain, je suis transférée dans une unité psychiatrique. On me guide vers la salle de restauration. Je m'installe et puis je fais pas du tout attention aux autres. Mais en fait, je vois qu'il y a des médicaments à côté de ma place. Et en fait, il y a une aide-soignante qui vient me voir et qui me dit « Madame, il faut que vous preniez ces médicaments. » Je refuse catégoriquement. Et là, je fais une crise où j'hurle, où je dis « Bon, je veux sortir, laissez-moi. » Donc, j'essaye de encore sortir de cette unité. Là, les infirmiers me contiennent à nouveau et je suis mise dans une chambre d'isolement où il n'y a rien en fait. Il y a juste un lit, du béton et des toilettes un peu plus loin. Ça s'apparente vraiment à une chambre de prison. Et au départ, je suis pas attachée, mais j'ai envie de sortir, donc je prends le lit et je le pousse très fort contre le mur, donc je fais un petit trou. Mais ça fait quand même un gros bruit. Les infirmiers reviennent. Ils me disent que là, ce n'est pas possible. Là, ils m'attachent. Dans cette chambre d'isolement, j'ai perdu la notion du temps. Je ne sais pas quel jour on est. J'ai l'impression d'être attachée tous les jours ou plusieurs heures par jour. Je ne sais même pas si ma famille est encore vivante. Je ne sais même pas si mes amis sont aussi vivants. Mais surtout, est-ce que moi, là, je suis peut-être pas vivante, en fait. Je suis peut-être au purgatoire. Et je pense que j'ai été dans cette chambre bien 3 semaines. Je comprenais pas pourquoi j'étais enfermée. Un jour, une infirmière vient me voir et elle me dit « Il y a ta mère. » Je me dis... Mais elle est morte, en fait. Est-ce qu'elle se fout un peu de moi? Mais j'y vais. Il y a le médecin qui me suit depuis quelque temps aussi, qui est là. Je la regarde. Elle ressemble à ma mère. Mais je trouve un truc différent chez elle. Je regarde même ses bagues en me disant, oui, c'est bien la même, mais c'est toi, maman? Je la touche un peu de partout, le visage. Je lui dis, c'est toi, maman? Ou est-ce que c'est une actrice? Et en fait, cet entretien, il durera même pas 2 minutes puisque le docteur me dit « Vous retournez dans votre chambre. » Et je me dis « Mais je vais la revoir, ma mère ?» Il me répond pas. Il me dit « Vous retournez dans votre chambre, oui, oui. » Et donc je retourne et là, je hurle, je dis « Mais si c'était ma mère, mais pourquoi vous m'avez laissé si peu de temps avec elle alors que je demande ça depuis... 2 semaines ou 3 semaines, j'en sais rien. Je comprends rien. » À plusieurs reprises, il y a un infirmier plutôt sympa qui vient me voir. Et un jour, je lui dis « Mais en fait, pourquoi vous portez cette tenue toute blanche? C'est un peu bizarre. » Il me dit qu'il est soignant. Et puis, il me donne le nom de l'hôpital psychiatrique. Ça me dit quelque chose. Et en entendant le nom de cet hôpital... Je me rappelle de Léo, mon premier copain, qui a été interné dans cette même hôpital. Et là, je me dis, en fait, c'est pas Martin le problème, c'est Léo. C'est lui qui a l'initiative de tout ce qui m'arrive à moi, à ma famille, à mon entourage. C'est lui qui me veut du mal. En fait, Léo, il m'en veut parce que je l'ai quitté, qu'il s'est retrouvé par la suite dans cet hôpital. Donc, il veut que je me retrouve dans cette même situation. Il est content que je sois dans cet hôpital parce que lui aussi, il l'a été. Donc il veut me montrer comment il a souffert, lui. Les jours passent et je suis le traitement. Et je pense qu'il fait un effet. Et les infirmiers le voient parce qu'ils me laissent sortir de plus en plus dans la cour, fumer une clope ou manger avec les autres patients. Je suis transférée dans une chambre classique. Je vais un peu mieux. Un soir, le psychiatre me demande comment ça va et je lui dis « Est-ce que je vais m'en sortir là parce que je souffre ?» Là, il me dit quelque chose qui va me marquer. Là, ce que vous faites, c'est des bouffées délirantes aiguës, je pense. Donc, soit c'est un épisode, c'est-à-dire qu'il va pas durer. C'est un épisode douloureux, mais qui va passer avec le traitement. Soit vous êtes atteint de schizophrénie et c'est le commencement de la maladie. Je vais un petit peu mieux et les soignants, l'équipe médicale autorise mes parents à venir me voir. Au départ, un tout petit peu. Puis, mon père vient tous les soirs après son travail. Parce que j'ai un peu du mal, je pense avec le traitement, à tenir ma cuillère. Et donc, il me donne à manger, il me parle, il me rassure. Et j'ai les premières permissions. De l'équipe soignante. Donc, je peux aller chez mes parents, sortir un petit peu, un jour, deux jours, trois jours, chez mon père. C'est très dur, parce que j'arrive pas trop à comprendre encore ce qui se passe. Et un jour, justement, j'ai une permission, et en sortant de l'hôpital avec mon père, je vois ce patient qui est à côté, qui sort en même temps que moi. Et là, je dis à mon père, « Tu vois, lui, je suis sûre qu'il fait partie des méchants. Il est dans le complot, c'est sûr. » Et là, mon père me répond, « Arrête, stop. En fait, il est malade comme toi. Donc t'arrêtes, là, tu regardes, c'est un hôpital. » Arrête de croire des choses qui sont pas. Lui, je lui ai parlé en plus, ce petit, ça fait 10 ans qu'il est là. Et je sais même pas pourquoi, en fait, j'entends enfin ce qu'il me dit. Parce qu'il a dû me le dire plein de fois. Mais là, j'arrive à saisir l'information et l'enregistrer. Et je regarde cet hôpital, je vois bien que c'est un hôpital. Je vois cette personne avec du recul. Et je me dis, oui, il est malade comme moi. Et moi, je suis malade. Et là, petit à petit, je prends conscience. Et c'est très douloureux de se dire qu'on est malade psychiquement. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais ça me fait beaucoup d'effet, en fait. Je prends conscience des choses comme si ça a été un vrai déclic pour m'en sortir. Comme si je me réveillais d'un cauchemar. Et là, je me disais... Ok, bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais m'en sortir et je vais y arriver. Parallèlement, ma mère a fait des démarches. Et ma mère a trouvé une clinique qui propose une hospitalisation de jour. Le psychiatre de mon hôpital accepte de me transférer là-bas. Là-bas, j'ai un programme où je suis suivie 4 demi-journées par semaine. On fait des groupes de parole, on fait des ateliers, des cours de sophrologie, comment respirer, comment contrôler une crise d'angoisse. Il y a aussi une assistante sociale qui me parle d'un possible avenir. En fait, c'est comme si je revenais d'un coma. Je le compare souvent à ça parce que je pose des questions qui me paraissent improbables. C'est-à-dire que je vais appeler ma petite sœur en lui disant, en fait, est-ce qu'on se lave le matin ou le soir? Ou encore, je disais à ma mère, mais en fait, j'avais oublié, mais j'ai 3 oncles. Plein de petites choses, ou même pour aller acheter une baguette, compter et dire à la boulangère, pourrais-je avoir une baguette, donner la somme exacte. Je réapprends à vivre doucement. L'hospitalisation de jour, j'y reste un an. Un an où je suis assidûment, comme si c'était une école, en fait. Plus le temps passe et plus je me sens mieux, je me retrouve. Au bout d'un an, bon, je reste un peu fragile, mais ça va beaucoup mieux. Je revois mes amis, et des amis qui comptent beaucoup pour moi, mes amis d'enfance, ma famille. Je passe beaucoup de temps avec eux, ils me soutiennent, et je sens que je suis en train de sortir de cet état affreux. Dix ans après, je me sens très bien. Ça fait 7 ans que je suis avec mon copain. Niveau professionnel, je suis très très heureuse. J'ai un travail qui me plaît. Et cette période a été un traumatisme. Mais en même temps, c'est quelque part une fierté aussi de m'en être sortie. Cet épisode m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, on me disait souvent quand j'étais dépressive à l'époque, il faut de la volonté, il faut s'en sortir. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai toujours eu de l'espoir et de l'envie. Le rire a toujours été important et même quand j'étais malade, je l'utilisais. Maintenant, en fait, je suis beaucoup dans l'autodérision de ce qui s'est passé, mais sans le fuir. À l'époque, quand j'étais mal, beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire « il faut de la volonté ». Avec ce recul, je me dis « il faut surtout de l'espoir ». Il faut de l'espoir et aimer aussi la vie et les petites choses de la vie.
Ce 99e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr. Sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. La musique est d'Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. À dans 15 jours.